Vous écoutez, on lit pour vous.
Une Gaspésie rongée par la mer. Un texte de Caroline Monti, paru le 26 mai 2025 dans Le Devoir. Quand elle était petite, Louise Fugère marchait sur plusieurs mètres devant sa maison de Maria, dans la baie des Chaleurs, en Gaspésie, avant de toucher l'océan. Aujourd'hui, les jours de tempête, la mer vient pratiquement cogner dans sa porte. Il y a 2 ans, 3 tempêtes consécutives ont eu raison de son perron, qui a été emporté par la vague. Et de la fenêtre de sa cuisine, elle peut désormais voir les oiseaux de plage copuler au printemps. Les pires tempêtes, c'est à l'automne qu'elles arrivent. Quand les vents du sud s'allient aux grandes marées pour venir gruger la côte. La direction des vents a changé, constate-t-elle. Avant, on avait un vent d'ouest dominant, mais là, c'est de plus en plus un vent du sud. Quelques rues plus loin, le propriétaire de l'épicerie doit régulièrement refaire le stationnement de débarquement de ses fournisseurs à l'arrière du bâtiment, que la mer défait les jours de gros vent. Les 800 kilomètres de côte gaspésienne sont potentiellement menacés par l'érosion. Mais la nature ne touche pas de la même façon toutes les berges, selon l'exposition aux vagues et aux vents, par exemple, et la composante géologique des lieux. Les changements climatiques, la municipalité côtière de Maria les vit de plein fouet. Alors que la baie des Chaleurs ne gèle plus en hiver, que les automnes plus chauds invitent les grands vents au moment des grandes marées, la côte se désintègre graduellement sous nos yeux. Une nouvelle plage, comme celle d'autrefois. Tout cela au point que la municipalité se lance cet été dans un ambitieux projet de recharge de plage pour redonner à une partie de la côte l'aspect qu'elle avait il y a 30 ou 40 ans, dit le directeur général de la municipalité, Thomas Romagné. Ce n'est pas une mince affaire. Il s'agit, à partir du mois de juin, de charrier 30 000 voyages de camions à 10 roues de sable et de gravier pour reconstruire la plage sur une longueur de 2,4 km. Grâce à ce projet, Louise Fugère pourra demeurer dans sa maison. Tous n'ont pas cette chance. Un peu plus loin, rue des Tournepierres, un secteur très affecté par les inondations, la municipalité a évalué que les coûts d'une construction de recharge étaient trop élevés. Les propriétaires des 55 maisons du secteur se sont plutôt fait offrir un rachat de leur maison au moyen du cadre de prévention du ministère de la Sécurité publique. Après avoir vécu 20 ans dans le secteur, Jacqueline Deraspe a donc décidé de céder sa maison et son terrain à la municipalité. C'est avec un pincement au cœur que je quitterai la Gaspésie, écrit-elle sur sa page Facebook. La mère a décidé de prendre sa place. Aujourd'hui, elle se cherche un logis dans les cantons de l'Est, idéalement à partager, étant donné le prix des maisons. En 2010, j'avais une rivière en arrière de ma maison, puis la mer devant la maison qui montait de 3 pieds et plus, raconte-t-elle. Je n'ai plus le goût de me battre avec la nature. S'il y en a qui veulent se battre avec la nature, ça leur appartient. Thomas Rogmagé a commencé à travailler à la municipalité de Maria en 2018. Quand je suis arrivé, je dirais qu'on évacuait les gens tous les 2 ou 3 ans. Dans les dernières années, j'ai évacué les gens chaque année. La ville de Maria n'est pas la seule à avoir opté pour la recharge de plages pour combattre l'érosion. En 2024, la ville de Sainte-Flavie a, elle aussi, reconstruit une plage pour protéger ses berges. À terme, ce projet permettra de protéger le noyau villageois de Sainte-Flavie contre l'érosion côtière et la submersion pour une durée approximative de 30 ans, lit-on sur le site web de la municipalité. À Havre-Aubert, aux îles de Madeleine, 75 tonnes de pierres, provenant notamment de Terre-Neuve et Labrador, ont été déversées sur 640 mètres de la plage de la Grave pour freiner la force des vagues au cours des dernières années. un développement mal encadré. Une autre source du problème est le fait que, depuis une vingtaine d'années, beaucoup de maisons se sont construites dans des zones potentiellement inondables, relève Michel Chouinard, conseiller stratégique au Conseil régional de l'environnement de la Gaspésie. C'est le cas notamment de la région de la rue Tournepierre à Maria, où les propriétaires sont présentement invités à déménager. Mais si on prévoit une élévation du niveau de la mer de 60 cm d'ici 2100, les effets de l'érosion ne sont pas les mêmes partout. La mer a monté, c'est clair, mais il y a des zones plus chaudes, surtout aux endroits où les formations sont plus fragiles. On parle par exemple de grès gaspésien. Ce grès réagissait seulement à la mer avant, mais maintenant il réagit aussi au gel des gels. En outre, les caps qui bordent la mer, entre Carleton et Maria, sont extrêmement vulnérables à l'érosion. Des résidents ont vu d'énormes pans de leur terrain glisser vers la plage, notamment au moment de la grosse tempête de 2010. « Ça bouge beaucoup plus », dit Michel Chouinard. « Là, il y a une nette accélération de l'érosion sur 10 km environ. » Les infrastructures humaines, notamment les murets et l'enrochement, ont également une influence sur la circulation des sédiments en favorisant l'augmentation de certaines plages et la disparition d'autres. Les municipalités sont en train de préparer un plan d'adaptation au changement climatique, dit-il. Le camping de Carleton-sur-Mer, situé sur une fine bande de terre créant un barachois, a perdu des sites depuis quelques années, même si la pointe sur laquelle il se trouve s'est allongée. Le camping, c'est le secteur qui est le deuxième parmi les plus visités à Carleton-sur-Mer. C'est majeur pour notre population, dit le maire de Carleton-sur-Mer, Mathieu Lapointe. C'est sur cette pointe que Jean-Paul Boudreau entretient régulièrement la petite cabane que son arrière-grand-père avait érigée avant lui. Souvent, il lui faut replacer les gros blocs de pierre censés protéger la chaussée parce qu'ils ont été déplacés par la mer. Avant, il y avait du foin qui poussait jusque-là, dit-il en désignant une ligne sur la plage. La mer, il y en a beaucoup qui ont essayé de l'arrêter, dit-il, fort de sa longue carrière sur les bateaux. Jean-Paul Boudreau n'exclut pas le fait que le barachois de Carleton-sur-Mer n'existera un jour tout simplement plus. « Mais je ne verrai pas ça de mon vivant, dit-il, à 78 ans. » Du bras, il montre la hauteur des blocs de glace qui jonchaient autrefois la grève en hiver. En 2024, il n'y a pas eu du tout de glace dans la baie des Chaleurs, confirme Michel Chouinard, et en 2025, la glace est arrivée très tardivement. Vivre près de la mer, c'est épouvantablement magnifique, dit à la blague Louise Fugère. Mais selon elle, dans un avenir prochain, cela pourrait ne plus être qu'un privilège de riches qui ont les moyens de payer pour protéger leur terrain. C'était « Une Gaspésie rongée par la mer », un texte de Caroline Monpty, paru le 26 mai 2025 dans Le Devoir.
Rentrée difficile en vue dans plusieurs écoles du Québec. Un texte de Zachary Goudreau, paru le 21 mai 2025 dans Le Devoir. Au moment où le nombre d'élèves ne cesse de croître dans le réseau scolaire québécois, des projets de construction et d'agrandissement d'écoles sont mis sur pause sous fond de compression budgétaire. Or, réaliser ces projets plus tard coûtera plus cher, sans compter les répercussions à court terme qu'a cette décision sur des milliers de jeunes, préviennent des architectes, des ingénieurs et des acteurs du réseau scolaire en quête de solutions pour réaliser à l'avenir ces chantiers plus rapidement et à moindre coût. La prochaine rentrée pourrait être difficile dans plusieurs écoles du Québec où des chantiers ont été mis sur pause, forçant des centres de services scolaires, CSS, à avoir recours de façon massive à des classes modulaires et à maximiser l'utilisation des espaces limités dont ils disposent. Des concessions qui affecteront la qualité de vie de nombreux élèves. Le Devoir a contacté une vingtaine de CSS où plusieurs projets de construction et d'agrandissement d'écoles qui étaient à l'étape des plans et devis ont été suspendus en décembre 2024. Pour l'instant, ceux-ci ignorent quand ces chantiers pourront reprendre. Résultat, des CSS dépensent des millions de dollars pour des classes modulaires, aménagent des classes dans des bibliothèques et déplacent des groupes d'élèves dans des municipalités dont les écoles sont moins achalandées, augmentant ainsi leur temps de transport scolaire quotidien. Nécessairement, je vais avoir un impact sur la qualité de vie des occupants, convient Roc-André Malot, directeur général du Centre de services scolaires des Mille-Îles CSSMI dans les Laurentides, en entrevue vidéo aux côtés de deux autres gestionnaires. Le CSS a notamment vu un projet d'ajout de 215 places dans l'une de ses écoles secondaires être mis sur pause par Québec, ce qui le préoccupe en vue de la prochaine rentrée scolaire. On a des enjeux de clientèle énormes. Donc, plus on attend, plus il y a une pression sur nos élèves, parce que toutes nos écoles secondaires sont pleines, confie Isabelle Gay, directrice du service de l'organisation scolaire et du transport au CSSMI, qui fait état d'une hausse fulgurante du nombre d'élèves dans ces établissements. Pour répondre temporairement à ce problème, Québec a financé la construction de 29 classes modulaires au coût de 16 millions de dollars. On ne peut pas risquer d'avoir un manque de places et des élèves qui n'ont pas de chaise, illustre M. Malot. Or, l'ajout de ces locaux temporaires augmente le nombre d'élèves qui se partagent des gymnases et des bibliothèques qui, eux, restent de la même taille, souligne Mme Gay. L'ajout de classes modulaires implique aussi l'aménagement de débarcadères supplémentaires pour des autobus, de places de stationnement et d'espaces réservés aux enseignants, autant d'infrastructures qui ne sont pas prises en compte dans le financement accordé par Québec, relève pour sa part Véronique Beaudoin, directrice adjointe du service des ressources matérielles du CSSMI. Quand j'ajoute 8 locaux modulaires au bout d'un corridor, le même corridor va accueillir l'équivalent de 8 groupes de plus. Il va y avoir plus de proximité. Il va y avoir plus d'incidents, de « je t'accroche, tu m'accroches », donc de bousculades. On peut supposer qu'il y aura plus d'incidents de violence et d'intimidation qui vont en découler, prévient pour sa part M. Malot. Pas un cas unique. Les écoles du CSS des Samars sont pour leur part occupées en moyenne à 120%, tandis que certaines dépassent même 150%. Dans ce contexte, des locaux consacrés aux arts et à la musique sont transformés en classes, ce qui a comme désavantage important de rendre nos écoles moins confortables pour les élèves et le personnel. Afin d'accueillir toute la clientèle, nous récupérons tous les autres espaces disponibles dans les écoles prévues initialement à d'autres fins, comme les locaux de spécialistes, anglais, arts dramatiques, etc., et les locaux de services de garde. De plus, nous transférons des élèves dans d'autres écoles que leur école de bassin, indique pour sa part le CSS de la Rivière du Nord, qui a vu plusieurs projets d'école être mis sur pause par Québec dans des secteurs où les établissements existants sont occupés au-delà de leur capacité d'accueil. La commission scolaire anglophone Lester B. Pearson, à Montréal, a quant à elle dû mettre sur pause la construction de 44 classes aux primaires qui devaient accueillir plus de 1056 nouveaux élèves. Le concept est prêt et nous pourrions commencer les plans et devis dès que la mise sur pause sera levée. Cependant, aucun nouvel échéancier n'a été communiqué, ce qui ajoute à l'incertitude et complique la planification scolaire, a écrit l'organisation dans un courriel au Devoir. Le manque d'espace y est tel que, dans l'une de ces écoles primaires, la moitié de la bibliothèque a été transformée en salle de classe. Ce n'est pas tout. Certains groupes doivent être combinés à l'intérieur de mêmes locaux et la cafétéria a aussi été réaffectée dans les dernières années pour offrir aux élèves un espace d'apprentissage supplémentaire, indique le directeur adjoint aux communications Dan Mullins. Autant de compromis qui peuvent avoir des impacts significatifs sur l'apprentissage, le personnel scolaire et la disponibilité des ressources, ajoute-t-il. Dans ce contexte, 3 demandes d'ajout de classes modulaires ont été déposées au ministère de l'Éducation par cette commission scolaire. Une situation qui fait écho à celle de nombreux CSS joints par Le Devoir, qui doivent opter pour cette solution temporaire afin d'accueillir des milliers d'élèves en attendant d'avoir le feu vert pour se doter d'installations permanentes. Des roulottes qui coûtent cher. Plusieurs firmes d'architectes ont ainsi vu la baisse de la demande liée à la conception de nouvelles écoles être remplacée par celle de la planification de classes modulaires, communément appelées roulottes. On paie des professionnels pour prévoir des roulottes dans des écoles pour une période de 3, 4, 5, 6 ans. Pour moi, c'est de l'argent complètement gaspillé, lance l'architecte Patrick Sabourin. Pendant ce temps, les besoins augmentent, au point où le CSS Marie-Victorin, sur la rive sud, dans la région de Montréal, entrevoit avoir besoin de 5017 places supplémentaires pour autant d'élèves de plus d'ici 2033. Ce sera de plus en plus difficile à chaque nouvelle rentrée, puisque nous sommes saturés en places disponibles et que la région de Lanaudière-Nord connaît l'une des plus importantes croissances démographiques du Québec, particulièrement de la clientèle d'âge scolaire, écrit quant à lui le CSS des Samars. C'était « Rentrée difficile en vue dans plusieurs écoles du Québec », un texte de Zachary Goudreau, paru le 21 mai 2025 dans Le Devoir.
Le meurtre d'un arbre. Un texte de Chantal Guy, paru le 18 mai 2025 dans La Presse. C'est arrivé en Angleterre. En 2023, 2 gars se sont rendus en pleine nuit dans le comté de Northumberland pour abattre un magnifique érable sycomore, presque 2 fois centenaire, qui faisait la fierté de la région. Le genre d'arbre devant lequel on se photographie lors des demandes en mariage ou pour le mariage lui-même. Ce sycomore, élu arbre de l'année en 2016, a été immortalisé dans de nombreux films, notamment le Robin Hood, Prince of Thieves, avec Kevin Costner en 1991. Ce ne sont pas les nouvelles décourageantes en environnement qui manquent. Mais j'ai accroché à ce fait divers consternant parce que les 2 accusés dans cette affaire, Daniel Graham et Adam Carruthers, viennent d'être reconnus coupables. Leur peine sera prononcée en juillet 2025 et ils risquent jusqu'à 10 ans de prison. Pendant l'enquête et le procès, les 2 ex-amis dans le crime n'ont pas cessé de se renvoyer la balle. « C'est pas moi, c'est lui !» malgré les preuves déposées contre eux, dont une vidéo retrouvée sur le téléphone de Graham où l'on voit l'arbre tomber. Sa chute aurait aussi endommagé le mur d'Adrien, un site romain classé par l'UNESCO. Ce qui fait mal en regardant ces images sombres et floues, comme l'âme de ces hommes, est de constater que ça ne prend que quelques minutes à un épais avec une tronçonneuse pour détruire ce que la nature a mis près de 2 siècles à créer. Même si l'on sait que des forêts entières sont détruites dans le monde, on dirait que l'abattage gratuit d'un arbre iconique comme le Sycamore Gap, c'est son nom, donne une dimension anthropomorphique à son exécution qu'on voit comme un meurtre. Parce que certains arbres sont comme des citoyens, connus des humains, des chiens, des oiseaux et des écureuils. Mais tout ce que je voulais savoir, c'était pourquoi? Pourquoi commettre un geste aussi radical envers une beauté naturelle admirée par tous? Qu'est-ce qu'il y a de plus pur et innocent qu'un arbre majestueux qui éblouit chaque humain qui le regarde? J'ai épluché beaucoup d'articles sur le sujet. Et on dirait bien qu'on ne le saura jamais, les accusés refusant de reconnaître les faits. En plus d'être caves, ce sont des lâches. Le procureur a résumé l'affaire en disant que c'était une mission débile de deux vandales qui étaient tout excités après, en se textant quand l'affaire est devenue virale sur le web. Parce que oui, la nouvelle a fait le tour du monde et on a unanimement condamné ce geste insensé. Comment peut-on se lever un matin et dire à son chum « Viens-t'en, le gros, on s'en va couper l'arbre qui fait triper tout le monde. » C'est comme ça que j'imagine la scène. Cette histoire navrante m'a rappelé la colère de ma mère quand des voisins ont coupé dans leur cour un arbre énorme et superbe qui offrait de l'ombre à tous les balcons des appartements du pâté de maison pour se faire construire une piscine creusée. Résultat, dans ce quartier, réputé pour ses îlots de chaleur, les gens cuisent sur leurs balcons en regardant la piscine toujours déserte des voisins où ils ne pourront jamais se rafraîchir. Contrairement aux deux tarés d'Angleterre, il y a ici au moins une raison, mais qui est, à mon avis, tout aussi stupide. Et ma mère ne décolère pas 15 ans plus tard. Quand des militants écologistes jettent de la soupe sur des œuvres d'art protégées par des vitrines, on les traite de tous les noms et d'ennemis de la civilisation. Mais ils font ça à visage découvert, sans abîmer les œuvres. Quant à savoir si ces méthodes ont un impact pour la défense de l'environnement, c'est un autre débat. Daniel Graham et Adam Carruthers, eux, sont de vrais nihilistes, à l'image d'une classe politique de droite libertarienne qui passe la tronçonneuse dans tous les programmes environnementaux en criant « Drill, baby, drill !» L'écologie, la science, l'art, la beauté, la communauté, ils n'en ont rien à foutre. Et sous prétexte de vouloir sauver la civilisation, il nous ramène au Moyen Âge. Les militants nous dérangent dans notre conscience, tandis que les imbéciles destructeurs ne font que confirmer notre pessimisme et notre misanthropie. C'est un autre des dommages insoupçonnés qu'ils font aux sociétés. On ne devrait pas les laisser semer le désespoir dans nos cœurs, et plutôt être rassuré par cette tristesse générale qui a éclaté en apprenant la chute du sycomore comme une preuve de notre attachement à notre héritage naturel. Il paraît que des pousses sont nées sur la souche et l'on a recueilli des graines de l'arbre qui seront plantées un peu partout en Angleterre en guise de consolation. C'était « Le meurtre d'un arbre », un texte de Chantal Guy, paru le 18 mai 2025 dans La Presse.
Faut-il laisser gagner les enfants? Un texte de l'équipe Naître et grandir, paru le 15 mai 2025 dans Virage. Gagner ou perdre à un jeu a peu d'importance pour un jeune enfant. Cependant, en vieillissant, il peut se fâcher s'il perd et ne plus vouloir jouer. Devriez-vous alors toujours le laisser gagner? Si vous laissez toujours votre petit enfant gagner, il croira qu'il ne peut pas perdre et il sera déstabilisé lorsqu'il perdra en jouant avec quelqu'un d'autre. Au contraire, s'il ne gagne jamais, il perdra son intérêt pour le jeu. Gagner peut en effet le motiver à continuer à jouer. L'idéal est donc de le laisser perdre de temps à autre. Il perd, aidez-le à nommer ses émotions. Votre petit enfant peut vivre de la tristesse ou de la frustration lorsqu'il perd. Il peut aussi se sentir nul ou s'inquiéter que vous ne le trouviez pas bon. Il a besoin de votre aide pour mettre des mots sur ce qu'il ressent. Par exemple, dites-lui « C'est vraiment fâchant quand le jeu ne se passe pas comme on avait prévu » ou « Tu es triste parce que tu aurais aimé gagner ». Vous perdez? Donnez l'exemple. Votre réaction représente un modèle important pour votre petit enfant qui imitera vos comportements. Mettez l'accent sur le plaisir que vous avez eu à jouer avec lui et non sur le résultat. Dites-lui, par exemple, « On s'est vraiment bien amusé » ou « Tu as été stratégique, bravo ». Soulignez votre déception d'avoir perdu tout en dédramatisant la défaite. Vous pouvez lui dire « J'aurais aimé gagner » ou « Je pensais remporter cette partie, je vais continuer de me pratiquer ». Montrez à votre petit enfant qu'il est normal de se tromper. Par exemple, dites-lui « Je crois que je n'ai pas bien joué sur ce coup-là. Qu'aurais-tu fait à ma place ?» Vous lui donnez ainsi l'occasion de démontrer ses compétences, ce qui renforce sa confiance en lui. Pas de compétition dans la vie quotidienne. En dehors des périodes de jeu, il est préférable d'éviter de mettre en compétition les enfants. Mieux vaut donc ne pas utiliser des phrases comme « Qui sera le premier en pyjama ?» Un enfant plus lent saura à l'avance qu'il perdra et il se sentira moins bon que son frère ou sa sœur. Valorisez plutôt les efforts de chacun. L'un d'eux peut être rapide pour s'habiller, alors que l'autre offre de l'aide pour mettre la table. Soulignez que vous appréciez ce que chacun fait et qu'il s'agit d'un travail d'équipe, plutôt que de les mettre en compétition l'un contre l'autre. Pour d'autres conseils, visitez notre site web à l'adresse suivante naitreetgrandir.com/laisser-gagner. C'était « Faut-il laisser gagner les enfants? » un texte de l'équipe Naître et grandir, paru le 15 mai 2025 dans Virage.